On a fait des progrès réels dans les combats contre les mines antipersonnelles et les bombes à fragmentation. Aujourd'hui, on doit insister, je crois, sur l'attention que la communauté internationale doit donner aux victimes des mines de tout type. Enfin, les ressources que la communauté internationale devrait mettre à disposition pour le déminage d'un coin et de l'autre part pour les victimes de ce type de munitions devrait être plus fort et plus généreux. Ce qui est très positif est que la conscience internationale a vraiment forcé un peu les décisions et on est arrivé à formuler des traités qui sont là, qui sont efficaces. Déjà beaucoup s'est fait. Une journée comme celle d'aujourd'hui qui donne une information plus actualisée sur ce qui se passe dans le monde pour ce qui regarde les victimes des mines, ça pourrait être très efficace et positif.
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté cette semaine le premier traité sur le commerce des armes conventionnelles. Est-ce que c'est une décision historique ou bien simplement, disons, un premier pas vers une possible plus grande évolution?
Il faut tout d'abord se féliciter car après 7 ans, il y a un accord de fond qu'il faudrait réglementer le commerce des armes. C'est des objets qui tuent et font beaucoup de dégâts. Mort, destruction, frein au développement, terrorisme. Le grand succès, c'est que la majorité écrasante des pays est consciente de cette réalité. Elle a voulu que faire quelque chose pour répondre à ces besoins urgents. L'importance est que pour la première fois, ce type d'armes conventionnelles sont réglementées, qu'ils deviennent la responsabilité des pays qui vendent des armes, se renseigner pour que ces armes ne puissent pas être utilisées pour des génocides, pour la violation des droits de l'homme et pour créer des situations vraiment, du point de vue du droit humanitaire, totalement inacceptables. Il y a des limites et des faiblesses dans les traités. Les traités devraient être considérés comme un point de départ, non comme un point d'arrivée. La signature, la ratification, l'entrée en vigueur et la mise en œuvre du traité sont maintenant déterminantes pour qu'il soit efficace et réponde aux objectifs mis en avant dès le départ. Alors, la porte est ouverte, c'est un premier pas et il faudra continuer à négocier et à convaincre surtout l'opinion de la communauté internationale qu'il reste encore du travail à faire. Pour l'essentiel, j'ai souhaité batailler pour un traité plus robuste et plus exigeant. L'important maintenant est de ne pas baisser les bras et de travailler sur le terrain et au sein des instances internationales, comme je disais, pour les renforcer dans la pratique.
Justement, vous disiez, il va falloir convaincre. Il va falloir convaincre d'autant plus la Syrie, l'Iran et la Corée du Nord qui n'ont pas approuvé ce traité, cette résolution.
L'argument porté par ces pays est qu'il n'y a pas une prohibition explicite dans le traité de vendre des armes aux groupes rebelles. En Syrie, évidemment, il n'y a pas encore la volonté politique d'arrêter la violence. Il y a des milliers de morts, et il y a trop de sang qui coule. Le premier pas là, c'est pas discuter des armements directement, mais d'arrêter les conflits et commencer à négocier comme on a proposé ici à Genève l'année passée, dans un accord qui n'a pas été implémenté. Et la rhétorique de la Corée du Nord est une distraction dangereuse parce que on ne sait jamais ce qu'il y a au-dessus de cette rhétorique violente, l'énergie, le temps, les moyens qui sont utilisés pour répondre à ces situations de violence et d'instabilité devraient être utilisés pour le développement, améliorer la situation des populations qui ont besoin d'aide et de cette manière d'améliorer la qualité de vie de tout le monde. C'est vraiment un dommage qu'on continue à disperser énergie et ressources quand on a besoin de ça pour faciliter et créer une vie meilleure pour des millions d'hommes et de femmes.